Pour des raisons logistiques et d'organisation, cet épisode a été enregistré à distance.
Déjà, il ne faut pas se mettre une pression démesurée. Non seulement il y a le temps pendant les études de s'orienter, et puis il y a le temps même après de se réorienter. Et je pense qu'il y a encore, notamment en Europe et en France, une peur de la réorientation ou une vision assez péjorative de la réorientation.
Bienvenue dans le podcast Altitude, un podcast qui vous montre que rien n'est écrit à l'avance, qui vous fait prendre de la hauteur, qui vous montre que la liberté de changer de voie existe et qu'on a le droit de sortir des sentiers battus.
Il faut prendre les choses étape par étape. Il faut bien sûr faire un maximum de stages parce que c'est vraiment les stages qui donnent cet aperçu du métier et c'est ce qui permet en fait d'avoir un premier contact avec un métier et c'est celui qui va permettre de dire « c'est un métier qui me plaît, j'ai envie de faire ça » ou « pas du tout ».
Je m'appelle Louis, je suis étudiant en master de journalisme à l'Université catholique de Lille et pour ce sixième épisode, je suis très content d'accueillir Baptiste qui est un ancien étudiant de l'université. Il a effectué tout son parcours universitaire au sein de la Cato et a notamment validé le master de relations internationales et sécurité nationale ou International Relations and National Security Studies. Aujourd'hui, il est spécialiste de la question migratoire pour l'OIM qui est une entité étroitement liée à l'Organisation des Nations Unies. Bonjour Baptiste, je suis ravi de t'avoir avec moi pour ce nouvel épisode d'Altitude.
Écoute, ça fait toujours très plaisir, un petit retour aux sources et un bon souvenir de mes années étudiantes et j'ai toujours un grand plaisir à revenir virtuellement ou physiquement à l'Université catholique de Lille, surtout en ce moment, même si j'aurais préféré être avec toi.
Bah ouais, moi aussi. Ça te rappelle des souvenirs, j'en suis sûr, cette faculté.
Plein, 5 ans quand même passés dans cette faculté, donc plein de souvenirs aussi bien en tant qu'étudiant et plus récemment en tant qu'intervenant. Donc, plein de bons souvenirs.
Est-ce que lors de tes études, le métier que tu fais actuellement, c'est-à-dire donc spécialiste de la question migratoire pour l'Organisation internationale pour les migrations, c'est un métier que tu connaissais et qui t'attirait ou alors tu ne connaissais pas du tout et tu as terminé le lycée en te disant « advienne que pourra, on va voir ce que je vais faire ».
Alors non, pas du tout. C'était pas du tout un métier que je connaissais. Déjà, je connaissais assez peu l'ONU à part ce qu'on en voit dans les médias, donc principalement les casques bleus. Et puis, je connaissais pas les métiers qui étaient dedans. Donc, pour moi, c'était un peu quelque chose de flou. Donc, c'était pas forcément quelque chose qui m'attirait, ne le comprenant pas très bien déjà. Et à la sortie du lycée, j'avais plus des idées assez vagues de ce que je voulais faire. J'avais surtout un goût pour le journalisme et notamment le journalisme sportif. Donc, j'avais ça en tête, mais sans avoir quelque chose de concret. Donc, j'avais vraiment pas de voie toute tracée.
Et tu avais peut-être une autre idée d'un métier que tu voulais faire avant de te lancer dans ta carrière, en tout cas dans cette carrière?
Oui, principalement, comme je le disais, le journalisme, c'était vraiment peut-être la voie qui me disait le plus. Et j'avais eu l'occasion d'y faire un petit stage assez tôt. Puis en fait, finalement, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je voulais faire, mais c'était un peu l'idée initiale.
Et quand tu t'es rendu compte que tu voulais pas partir dans cette voie-là, pour toi, ça a posé un souci ou tu t'es dit, tant pis, tentons autre chose?
Ça pose toujours un souci parce qu'on se pose des questions, même si on dit toujours que les études supérieures ou que les études universitaires, c'est long et qu'on a le temps. Les années passent vite et arrivé en deuxième ou troisième année, on dit qu'on n'a plus que 2 ou 3 ans d'études et que ensuite on doit quand même être sur le marché du travail. Donc ça peut faire un peu peur. On a toujours l'impression de pas savoir et de perdre son temps. Et du coup, on commence à se poser des questions sur ce qu'on va devenir, si on doit refaire des études après ou des choses comme ça.
Et donc, tu as commencé à t'intéresser à ces questions de relations internationales pour finalement en faire un master. Comment c'était venu un peu ce goût des relations internationales, des RI, comme on dit dans le jargon?
Alors le goût des RI, j'étais en fait en licence d'histoire au sein de la FLSH et c'était un parcours qui était relativement naturel, j'ai envie de dire, parce que les relations internationales ont quand même un lien assez étroit avec l'histoire et notamment avec l'histoire contemporaine. J'avais envie de faire quelque chose qui était dans la même veine que l'histoire, mais en même temps j'avais déjà goûté à l'expérience de l'expatriation et de la vie à l'international à travers ma terminale au lycée français d'Irlande. Et j'avais un peu envie de lier ma vie professionnelle avec cet aspect de vivre à l'étranger. Donc j'avais envie un petit peu d'étudier ça de plus près.
Et toi, t'as un peu le goût du voyage. T'aimes bien te balader un peu partout. Tu l'as dit, t'as fait ton lycée, du coup, au lycée français en Irlande. Est-ce que ce goût du voyage, ça t'a amené pendant tes études à faire un Erasmus?
Alors non, j'ai pas eu la chance de faire l'Erasmus. Pourtant, l'université catholique en proposait pas mal. Mais je l'ai pas fait, principalement parce qu'à l'époque, je souhaitais encore présenter le concours de journalisme, que je n'ai pas présenté au final.
Tu regrettes de pas l'avoir fait?
Un petit peu, parce que je me dis que ça aurait pu être sympa. Je vois que la plupart des gens qui l'ont fait, très peu le regrettent. Il y a encore une fois un éventail extrêmement large qui s'élargit d'année en année au sein de la faculté et qui est très intéressant. Donc avec le recul, je regrette un petit peu. Maintenant, j'ai l'impression qu'avec mon métier actuel, j'ai un peu rattrapé le retard de l'expatriation que j'ai manqué à travers l'Erasmus.
Est-ce que tu conseillerais à des étudiants, même si tu ne l'as pas fait, de partir en Erasmus, de voyager? Parce que toi, après, tu as voyagé pendant toute ta carrière. Donc finalement, est-ce que tu le conseilles? Est-ce que c'est formateur?
Alors oui, c'est très formateur et ne serait-ce que sur l'aspect linguistique où on se rend compte que peut-être à une époque, les langues étrangères étaient un vrai plus. Maintenant, si on veut travailler à l'étranger, c'est une obligation. Je pense qu'Erasmus donne vraiment cette aisance dans les langues parce que l'immersion, c'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre les langues. Et même pour l'anglais, je pense qu'au-delà de faire un Erasmus ou un échange dans un pays anglophone, faire un échange dans tout type de pays à l'étranger, ça forge, je pense, les capacités linguistiques.
Aujourd'hui, tu travailles pour l'ONU et notamment à l'Organisation internationale pour les migrations. Avant ça, tu as donc effectué un stage au sein des Nations unies. Comment ça s'est passé, ce premier stage? Ça s'est passé au Kosovo. Par quel biais tu as pu rentrer dans cette infrastructure, dans cette organisation si grande et avec tellement de branches?
Alors, donc au Kosovo, en effet, je travaillais au bureau du coordinateur résident, donc qui est la personne qui coordonne toute la présence des Nations unies au sein d'un pays. Et j'ai réussi à avoir ce poste au culot et à l'abnégation, j'ai envie de dire. Je crois que c'était ma 174e candidature à un stage aux Nations Unies, pour la plupart spontanée. Et ils ont eu envie de me prendre ou piquer de moi, je ne sais pas, mais en tout cas mon mail et ma candidature les a intéressés. Et je crois que 2 semaines plus tard, j'étais parti au Kosovo dans un pays que je ne connaissais pas, dans une organisation que je ne connaissais pas encore très bien. Et j'ai eu du coup l'occasion de pouvoir travailler avec la coordinatrice résidente et avec la chargée du bureau de coordination.
C'était quoi un peu tes missions durant ce stage au Kosovo?
Alors ma mission principale, c'était d'accompagner la spécialiste en coordination, donc c'est-à-dire en fait organiser des réunions régulières entre les différentes agences des Nations Unies au Kosovo. Donc pour les plus connus, UNICEF, mais aussi l'OIM ou le HCR pour les réfugiés. Ces agences-là ayant leur mandat respectif, il y a quand même un besoin de coordination entre les agences pour qu'il y ait une réponse qui soit coordonnée et unifiée entre les différentes agences. Donc on faisait beaucoup de réunions, d'événements internes aux Nations Unies pour s'assurer qu'on n'était pas en train de faire des doublons dans les activités. Donc moi, principalement, en tant que stagiaire, je préparais des notes pour les réunions, je prenais les notes pendant les réunions, j'organisais des rencontres avec les médias, je m'assurais de la visibilité des Nations Unies sous une seule et même bannière. Donc voilà à peu près ce que je faisais.
Donc là, c'est ton premier pas du coup au sein de l'ONU. Et finalement, tu as tellement kiffé ça que tu t'es dit, tiens, et si je partais au Laos pour regarder un peu cette question de trafic d'humains, si j'ai bien compris, c'est bien cette question-là que tu traitais lors de ton stage. Tu en as fait un deuxième du coup au Laos.
Ouais, tout à fait. Je suis rentré de mon stage du Kosovo entre le Master 1 et le Master 2. J'avais quand même apprécié ce que j'avais fait au Kosovo, le pays, mais aussi l'organisation. Et j'avais envie d'approfondir encore un peu plus sur un autre domaine, sur une autre région. Et du coup, j'ai trouvé ce stage dans un programme des Nations Unies qui est un programme interagence de lutte contre la traite des personnes, qui est basé donc à Bangkok, mais qui couvre aussi beaucoup de pays. Et donc moi, c'était au sein du bureau à Vientiane, au Laos. Je m'occupais encore une fois en tant que stagiaire d'assister l'équipe sur place dans la mise en place du programme, des activités, l'organisation de formation au Laos, principalement à Vientiane.
Est-ce qu'il y a eu pour toi un peu un choc des cultures, parce que c'est quand même des pays qui sont éloignés? Est-ce qu'il y a eu ce choc un peu interculturel qui t'a peut-être fait avancer aussi dans ta vie professionnelle et personnelle?
Oui, tout à fait. Le Kosovo, c'est à 2 heures de Paris, mais pourtant c'est très différent, même si c'est une culture qui est très européenne. Et à chaque fois, c'est des cadres de vie aussi bien professionnels que personnels qui sont hyper intéressants à vivre. Alors c'est un choc des cultures dans le sens où en fait on va travailler avec beaucoup de staffs nationaux, locaux, mais aussi avec des staffs internationaux, mais qui sont assez rarement de propre nationalité. Donc on va travailler vraiment avec des gens qui peuvent venir d'un peu partout. Donc il y a vraiment aussi cette intelligence émotionnelle qu'il faut avoir et essayer de jongler avec les différentes cultures. Il faut réussir à travailler en bonne intelligence avec des gens qui n'ont pas forcément la même culture. Il faut avoir une grande force d'adaptation dans son travail au quotidien et puis aussi dans sa vie au quotidien. Il y a des choses qu'on peut plus faire dans certains pays, que ce soit en matière sécuritaire ou culturel. Donc non, c'est une chose magnifique et je recommande toujours aux gens d'aller plutôt vers des stages dans des pays comme ça, plutôt que des stages dans des grands centres régionaux ou dans des quartiers généraux, parce que c'est à travers en fait ce genre de stage qu'on se développe aussi en tant qu'humain et que professionnel. Et plus le stage est dans des pays, on va dire, atypiques, plus il va ressortir sur son CV.
Et bien justement, quel conseil tu donnerais à un étudiant qui souhaiterait trouver un stage ou un job, en tout cas dans cette branche ou en tout cas dans cette organisation?
Alors déjà, il faut beaucoup d'abnégation, comme je te l'ai dit, 174 candidatures pour le premier stage, 134 pour le deuxième. Donc il faut jamais baisser les bras. Les Nations Unies, c'est une organisation qui est immense. Il y a de la place, mais il faut savoir où chercher, il faut avoir envie, il faut pas baisser les bras, il faut faire beaucoup de recherches au préalable. Il faut venir dans notre master à la FLSH en relations internationales pour assister à mon cours où je développe tout ça. Ça c'était l'instant pub. Mais surtout, voilà, c'est pas baisser les bras, parler bien anglais, ça c'est vraiment le béaba. Le français est une langue qui est valorisée surtout dans les pays francophones. Mais voilà, donc il faut cibler ces agences en fonction de ces thématiques d'intérêt, cibler les programmes, les personnes qui les gèrent et préparer des bonnes candidatures.
Ok, bah moi j'en prends bonne note du coup, parce que pourquoi pas changer de parcours plus tard. Durant ton parcours pro, donc on l'a dit, t'es allé au Kosovo, au Laos, et ensuite tu t'es dirigé pendant une grosse partie de ta carrière, qui continue aujourd'hui bien sûr, et bah une grosse partie tu l'as faite en Afrique, plus précisément en Tunisie, au Niger et en Afrique du Sud et encore dans plein d'autres pays. Quelles étaient tes fonctions à ce moment-là? Comment ça s'est déroulé un peu ces différentes années sur le continent africain?
Alors après le Laos, j'avais eu à travers ce travail justement de lutte contre la traite des personnes qui a un peu un aspect de mobilité transfrontalier. Ça a été mon premier contact avec l'aspect migratoire et ça m'a vraiment intéressé. J'ai souhaité rejoindre l'OIM que j'ai pu rejoindre en Tunisie pendant presque un an et demi, dans lequel je faisais du développement de projet donc pour l'Organisation internationale pour les migrations, qui était à l'époque une entité affiliée aux Nations Unies et qui depuis est devenue une agence des Nations Unies. Donc j'ai pu faire ça en Tunisie et rentrer, mettre un pied dans l'OIM, y faire mes preuves. Et puis ensuite, une fois que j'étais en Tunisie, alors j'avais des aspirations géographiques, mais quand on est au début de sa carrière, malheureusement, on n'a pas toujours le luxe du choix. Et j'ai eu une opportunité au Burkina Faso, juste après la Tunisie, ce qui m'a ensuite du coup fait arriver pour la première fois de ma vie, j'ai pu mettre un pied en Afrique de l'Ouest ou au Sahel. Et ensuite, j'ai donc fait 7 mois au Burkina Faso et ensuite j'ai été muté au Niger, à Niamey, où pour le coup j'ai passé 5 ans. Donc là, c'est le pays où je suis resté plus longtemps. J'aime à dire que j'ai passé un sixième de ma vie dans ce pays, donc il représente quelque chose d'assez important pour moi. Et puis après, voilà, donc j'ai pu grimper un petit peu au Burkina Faso. Je me suis spécialisé dans ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire la gestion de l'immigration et des frontières, une des spécialisations, un des mandats de l'OIM. Et ensuite, au Niger, j'ai continué dans cette branche où j'ai grimper un petit peu les échelons petit à petit et j'ai accompagné la croissance de la mission de l'OIM dans ce pays. Et puis ensuite, j'ai pu ensuite partir faire un remplacement de congé maternité en Afrique du Sud à Pretoria où j'avais un rôle plus régional.
Est-ce que tu pourrais développer un peu cette partie du Niger, ce que tu as fait là-bas, parce que tu as passé quand même 5 ans, c'est quand même pas négligeable. Comme tu le dis, un sixième de ta vie, hein, vous ferez le calcul. Quelles étaient tes fonctions réellement, le travail de terrain, ça se passait comment exactement?
Alors au Niger, donc j'ai commencé par un poste qu'on appelle project officer en anglais, qui n'a pas forcément de traduction littérale en français, si ça pourrait être chargé de projet ou assistant de projet. En fait, on travaillait sur un projet qui était financé par le Japon. On avait donc des activités à mettre en place, ça allait de l'infrastructure au niveau frontalier, en passant par des formations, des procédures opérationnelles standardisées, des études, des états des lieux de différents pays, des réformes législatives, du travail avec les communautés frontalières, etc. Donc on doit mettre en place ces activités avec l'argent que le gouvernement japonais nous a confié. Et donc chaque activité représente des termes de référence à préparer, des budgets à préparer, contacter les autorités locales, parce que ces activités-là, on les fait pas tout seul, on les fait avec les autorités. Et puis les mettre en place directement. Alors après, quand c'est de l'infrastructure, il faut contracter des entreprises locales. Et voilà, donc c'est à peu près notre journée type. Après, bien sûr, et notamment à cette époque-là, ça engendre beaucoup de déplacements, puisqu'on parle de gestion des frontières, donc le faire depuis la capitale, c'est pas évident. Donc on se déplaçait énormément au niveau frontalier, le plus de temps possible et autant que la sécurité nous le permettait. Voilà, ça m'a permis de vivre des moments exceptionnels en mission et de voir des choses assez incroyables que maintenant, malheureusement, avec la situation sécuritaire, je ne pourrais plus voir à l'heure actuelle.
Tu as des exemples de ces choses incroyables que tu as vues?
Il y a quelques missions qui m'ont particulièrement marqué, notamment dans des frontières extrêmement lointaines et sauvages. Par exemple, celle qui me vient le plus en tête, c'est une mission à la frontière avec la Libye. On a fait une mission dite exploratoire, donc c'était une zone qui a très peu de densité humaine. C'était une région par laquelle transitait le Paris-Dakar il y a encore une trentaine d'années. Maintenant, c'est plus possible pour des questions sécuritaires, mais c'est une mission qui était assez exceptionnelle dans le sens où voilà, on est en plein milieu du désert du Ténéré. Il n'y a pas une âme qui vive à 200 ou 300 km à la ronde et on voit des paysages qui sont magnifiques et puis on rencontre aussi parfois des gens, des caravanes de marchands, etc. Et c'est assez incroyable. On a parfois besoin de se pincer pour y croire, mais voilà, on est vraiment au bout du monde, entre guillemets, et ça reste des missions qui sont et agréables pour l'aspect voyage et qui sont aussi extrêmement intéressante d'un point de vue professionnel.
Il y avait des zones dangereuses dans lesquelles tu circulais, et si oui, comment est-ce que tu les abordais? Parce que tout à l'heure, tu parlais de sécurité. Je me suis dit, peut-être qu'il y a des zones où c'était un peu plus chaud que d'autres.
Alors déjà, la sécurité des staffs et du personnel, c'est la préoccupation première des Nations Unies. Il faut savoir que c'est une organisation qui est extrêmement sérieuse sur ce point-là et qui ne prend pas de risques inutiles. Donc si on m'envoyait dans une zone, c'est-à-dire qu'on estimait que déjà ma mission en valait la peine, et ensuite il fallait prendre les mesures sécuritaires et de protection qui vont avec. Donc dans certaines zones, on n'avait pas besoin de sécurité du tout parce que il n'y avait aucun risque, qu'on y allait juste en voiture ou avec la compagnie aérienne des Nations Unies. Ou alors, dans d'autres zones, il fallait faire appel à une escorte, donc de type police, gendarmerie ou forces armées, qui nous accompagnaient dans tous nos déplacements et qui ensuite nous ramenaient. Voilà. Il faut savoir que quand on travaille aux Nations Unies, on est sous la protection des forces de défense et de sécurité locales. Donc, en effet, il y avait certaines missions qui requieraient ça. Après, si on estimait que la mission était dite trop risquée, on annulait ou on repoussait la mission.
T'es déjà tombé dans une embuscade ou un checkpoint, ou un moment où tu t'es dit là ça va pas passer, ça va être vraiment chaud?
Alors une embuscade non, des checkpoints ou en tout cas des contrôles de groupes armés oui, mais on n'est jamais arrivé à une situation critique dans le sens où au point où j'ai pu avoir peur ou où j'ai pu avoir peur pour mes équipes, parce qu'encore une fois on a des spécialistes de sécurité au sein des Nations Unies qui ne font que ça, qui analysent la sécurité et qui font en sorte que s'il y a le moindre doute on ne parte pas en mission et on ne prenne pas ce risque. Il y a déjà eu des situations tendues à proximité, on va dire pas directe mais pas très loin, mais jamais de manière frontale.
J'ai vu aussi que tu avais reçu la distinction de chevalier du mérite du Niger, ce qui je crois est l'équivalent de la Légion d'honneur française. C'est quoi l'anecdote derrière cette histoire? Parce que du coup, tu as passé 5 ans au Niger et tu as aussi cette fameuse distinction de chevalier du mérite.
Oui, alors c'est un très bel honneur que m'a fait l'État nigérien, particulièrement le cabinet du Premier ministre, qui était une des autorités avec lesquelles je travaillais le plus, et qui a fait une demande spéciale auprès du président de la République du Niger pour me décerner l'ordre de chevalier du mérite du Niger. Donc c'était un très très beau moment, ça m'a été remis par la chef de cabinet du Premier ministre, et c'était une très belle reconnaissance, même si alors c'est une reconnaissance qui est personnelle, mais que j'ai toujours vue comme une reconnaissance collective, parce que j'avais une équipe de plus de 30 personnes qui faisait un travail exceptionnel. Même si cette décoration était faite à titre individuel, pour moi, c'était vraiment le fruit d'un travail collectif et le fruit d'un travail d'équipe. Donc c'était à eux que je le devais.
C'est quoi le ressenti quand on travaille pour cette organisation et ses différentes branches? Est-ce que c'est vraiment la même ambiance de travail partout où tu es allé, ou ça différait en fonction de la zone dans laquelle tu te rendais?
Non, ça change beaucoup. Bah déjà, la nature du travail change en général pas mal l'ambiance ou l'environnement d'équipe qu'on peut avoir. La nature du pays dans lequel on est, le degré d'urgence et de sécurité aussi change pas mal en fonction de là où on peut être. Donc, c'est chaque pays est très différent. Chaque ambiance dans laquelle on travaille est assez unique. Les profils, les nationalités avec lesquelles on travaille sont toujours assez uniques. Donc, je pourrais pas comparer mon équipe au Burkina Faso, au Niger, en Tunisie, à Bruxelles. Voilà, c'est vraiment chaque équipe est assez unique. Les personnalités qu'on rencontre sont extrêmement intéressantes. Donc c'est très très différent.
Et j'ai l'impression que tu t'y sens bien finalement. Le fait de bouger partout, de faire plusieurs pays, de faire différentes missions à chaque fois, c'est quelque chose qui te passionne encore plus que les voyages.
Oui, complètement. En fait, je pense que là, j'ai dépassé un peu le cap de j'aime le voyage et maintenant je peux dire j'aime l'expatriation. C'est quand même deux choses assez différentes, hein. Il faut savoir que quand on voyage pour le travail et qu'on y vit, on n'est pas du tout dans le même mode que quand on voyage pour le tourisme. Donc ça me plaît bien. Ça fait maintenant depuis 2012 que je fais ça et j'adore. En fait, j'ai adoré chaque pays dans lequel j'ai vécu. Certains plus que d'autres, c'est normal. Mais c'est vraiment un style de vie qu'il faut aimer. C'est pas fait pour tout le monde. Il faut le savoir. Il y a des gens qui ne supportent pas la distance avec la famille, les amis. Mais c'est un mode de vie que j'échangerais pour rien au monde.
Et cette distance, toi, tu l'as vécue comment?
C'était pas toujours simple, notamment quand on est dans des âges où les gens commencent à se marier, à faire des enfants, et qu'on peut pas toujours être là dans ces moments qu'on aimerait bien partager. Même la naissance de neveux, de nièces, etc. Ça fait partie des sacrifices que demande ce genre de carrière. C'est pas toujours facile d'être à distance dans ces années-là, qui sont aussi des années assez importantes. Il faut essayer de savoir si c'est un sacrifice qu'on est prêt à faire. Moi, j'étais prêt à le faire et je regrette pas pour plein de raisons. C'est difficile, on va pas se le cacher, on va pas faire semblant que c'est pas des choses qui nous manquent ou qu'on a aucune tristesse à manquer ce genre de moment, mais c'est un sacrifice qui en vaut la chandelle.
Est-ce que ton boulot, qui est, je pense, extrêmement prenant, ça t'a empêché, ou en tout cas ça t'a rendu difficile, le fait d'avoir une vie stable, que ce soit sur le plan professionnel ou même personnel, comme tu le disais juste avant?
Alors pendant un moment, oui, mais maintenant j'ai la chance d'être accompagné par ma compagne qui est dans le même milieu, donc ça aide aussi à la mobilité. J'ai envie de dire que je fais partie des chanceux qui ont réussi à trouver leur équilibre là-dedans. Mais en effet, c'est pas toujours simple pour un couple ou une personne seule d'être en mouvement perpétuel tous les 4-5 ans maximum, de devoir bouger d'un pays à l'autre, et souvent dans des pays qui sont pas toujours les plus simples en matière de carrière professionnelle pour d'autres secteurs. C'est pas simple, mais en tout cas, on peut y arriver. J'en suis un exemple.
Alors, c'est un très beau message d'optimisme. En tout cas, ça, c'est validé. Dans quel pays as-tu préféré travailler? Au sein de l'ONU puis de l'OIM?
Alors c'est très dur à dire parce que j'ai des souvenirs différents et des préférences différentes d'un pays à l'autre en fonction de différents critères. Après, on dit souvent première expatriation, premier amour. Et du coup, dans ce sens-là, le Kosovo a une place très particulière dans mon cœur, alors que c'est peut-être le pays dans lequel j'ai passé le moins de temps. C'est un pays, c'est vrai, qui est magnifique et les gens sont géniaux. Et puis de l'autre côté, je dirais le Niger, parce que le Niger, c'est là où j'ai passé le plus de temps et j'ai aussi gardé des souvenirs exceptionnels, des amis exceptionnels. J'ai encore des contacts assez réguliers et voilà, et c'est un pays aussi qui est magnifique.
Et quel souvenir t'as le plus marqué? Tu dis que t'as des souvenirs extraordinaires. Moi, je veux en savoir plus. Raconte-moi, je t'écoute.
Je sais pas, mon permis de conduire au Niger, c'est un souvenir très personnel. Je fais partie de ces gens qui ont attendu extrêmement tard pour passer leur permis de conduire.
Je l'ai eu la semaine dernière, j'ai 22 ans, tu vois.
Ah ben, félicitations, je l'ai eu à 29 ans, je crois, ou 28 ans, donc c'était extrêmement tard.
Ah oui.
Voilà, je m'étais rendu compte que le permis de conduire nigérien était reconnu en France et je me suis dit, allez, faisons-le. Sauf que du coup, je l'ai passé dans une Toyota Starlet. Je tiens à dire que je mesure 1m95 et que la Toyota Starlet est un tout petit véhicule et que j'ai appris un code de la route qui est du coup assez différent de celui qu'on peut apprendre en France. Et voilà, donc ça reste des souvenirs assez incroyables parce que j'ai même réussi à rater mon permis de conduire une fois au Niger. Mais maintenant, je suis l'heureux détenteur d'un permis nigérien que j'ai changé en permis belge, je tiens à le dire. Voilà, donc ça fait partie des petites anecdotes que je retiens. Au Kosovo, je vivais en colocation avec un des leaders de l'opposition, Sovar, qui maintenant est au pouvoir. Je peux dire avec fierté que le Premier ministre du Kosovo actuel a dormi sur mon canapé dans mon appartement à Pristina, qui à l'époque était un tout petit parti. Donc voilà, donc ça fait partie des petites histoires qui me reste en tête.
Moi, je vais retenir le passage de permis au Niger parce que je trouve ça juste extraordinaire. Je suis désolé. Moi, c'est la meilleure des anecdotes.
Et on m'a appris pendant ce permis que les rétroviseurs ne servaient à rien. Donc,
intéressant.
Voilà. Donc, la conclusion, c'est ne me croisez pas sur la route.
Ouais. Donc, n'allez pas à Bruxelles. Voilà. C'est trop dangereux. Durant tes missions en Afrique, tu t'es déjà posé cette question. Qu'est-ce que je fais là? Et est-ce que tu t'es déjà dit, je vais peut-être changer de boulot, ça me correspond plus trop? Est-ce que t'as douté durant ta carrière? Est-ce que tu t'es posé des questions sur ce que tu faisais?
Alors, j'ai jamais douté de ma voie professionnelle. Et je pense que le jour où on en doute, c'est le moment de partir. Mais après, je sais être extrêmement critique envers l'ONU en général et mon organisation également. Je pense qu'il faut être aussi, il faut être autocritique. Fais pas les choses parfaitement, on pourrait les faire beaucoup mieux sur plein de choses. Après, d'un point de vue personnel, oui, il y a des moments où on a vraiment marre. J'ai des souvenirs du Niger, justement, où on avait des coupures d'électricité de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, notamment, je crois, en 2016. Où, bah voilà, quand il fait 45 degrés dans sa chambre et qu'on n'a pas de ventilateur, on n'a pas de clim, qu'on n'arrive pas à dormir, que le lendemain on doit aller travailler et que le soir on pense qu'on va avoir l'électricité et puis qu'il y a une nouvelle coupure quand on arrive chez soi. Là, ça demande beaucoup de patience et de calme. Mais donc ça, j'avoue que dans ces moments-là, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là et pourquoi je rentre pas tranquillement en France me trouver un travail à Paris ou à Lille? Ça fait partie des phases par lesquelles il faut passer. On a des moments où on perd un peu patience parce que voilà, c'est des choses qui peuvent affecter l'aspect psychologique, mais physique aussi. Je dois dire que j'ai eu 11 fois le palu.
11 fois?
Oui, 11 fois, ouais. Je m'étais toujours dit que je partirais à 15, mais heureusement, j'ai jamais atteint le 15. C'est des choses qui sont pas agréables. C'est des grosses grippes et on se dit, bon, ça commence à bien faire. Mais bon, voilà, je pense que l'amour du travail, l'amour des gens qui nous entourent là-bas fait qu'on reste et on fait une année de plus, puis une année de plus, puis une année de plus, puis on se retrouve à 5 ans.
Alors aujourd'hui, tu es de retour en Europe. Actuellement, tu vis à Bruxelles, on l'a dit. Maintenant, tu ne fais pratiquement, je crois, plus de travail de terrain. Est-ce que ça te manque ou alors au contraire, tu préfères ta fonction d'aujourd'hui ou alors chaque poste est différent?
Alors chaque poste est différent. Oui, ça me manque beaucoup, et c'est normal. Je pense que quand on vient du terrain et qu'on a fait que ça, que tout d'un coup, du jour au lendemain, on n'en fait plus. En plus, vis-à-vis du Covid, on pouvait plus se déplacer. Ça manque pas mal. Après, dans le travail que je fais, même si j'ai pas de contact direct ou je fais pas de l'implantation d'activité directe sur le terrain, j'aurai, je l'espère, l'occasion très prochainement de faire du terrain différent. C'est-à-dire que mon but, là, c'est plutôt d'aller parler au niveau avec l'Union européenne, mais aussi avec les capitales européennes, pour leur présenter un peu ce qu'on fait dans notre thématique et aussi, pourquoi pas, aller attirer, un peu attiser l'intérêt qu'ils pourraient avoir pour nous financer des projets. Le terrain, en fait, on passe du désert nigérien à Berlin ou Londres ou Copenhague ou Rome ou voilà, ce genre de terrain-là.
Et ce que tu fais là, du coup, à Bruxelles, tu peux nous détailler un peu ta fonction à Bruxelles ?
Alors, à Bruxelles, je suis ce qu'on appelle, et le titre est pas forcément très concret ou très clair, mais je suis spécialiste régional thématique en gestion de l'immigration et des frontières. Il faut savoir que l'OIM a des spécialistes thématiques régionaux, donc dans plusieurs thématiques dans chaque région. Je m'occupe de ce qu'on appelle l'espace économique européen, hein, puisque ça englobe l'Union européenne, mais aussi d'autres pays comme l'Islande, la Norvège ou la Suisse, ou même le Royaume-Uni maintenant. Et donc, dans cette thématique-là, j'ai plusieurs missions. La première, c'est d'assister nos missions de l'OIM en Europe. Il faut savoir qu'on a des missions dans tous les pays européens ou presque. Et certains mettent en place des projets d'appui à la gestion de l'immigration et des frontières. Et ensuite, ma deuxième mission, c'est de m'occuper également du lien avec les capitales européennes dans cette thématique-là. Donc, m'occuper de lever des fonds auprès du gouvernement allemand, du gouvernement italien, du gouvernement néerlandais, du gouvernement belge, etc. dans la thématique de la gestion de l'immigration et des frontières pour des pays tiers. Et enfin, c'est de gérer la relation aussi dans cette thématique toujours de l'OIM avec l'Union européenne et ses différentes instances que sont aussi au-delà de la Commission, Frontex ou Europol, etc.
La transition entre tes anciennes fonctions de travail de terrain et ces nouvelles, elle a été difficile ou pas ?
Elle a été un peu difficile parce qu'il faut enlever un peu sa casquette de Bob le bricoleur et ses gants de terrain. Et il faut mettre le costume cravate et enfin voilà, c'est un peu j'imagine hein, mais j'exagère, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on rentre dans quelque chose de plus stratégique, dans le conseil, dans l'appui. Donc il faut s'adapter. Et en plus là, dans ce bureau-là particulièrement, il faut vraiment se tenir au courant et avoir des connaissances particulières dans l'Union européenne et dans ce que fait l'Union européenne et dans la législation européenne. Donc il y a un moment de transition qui est nécessaire. Il faut s'acclimater à ce type de position. Il faut aussi découvrir une nouvelle région. Il faut savoir que ce qu'on fait en gestion des frontières et de l'immigration en Europe est complètement différent de ce qu'on peut faire au Niger. Au Niger, je pouvais construire des postes frontières. En Europe, personne n'a besoin de moi pour construire un poste frontière.
Ouais, donc au Niger, finalement, toi, tu le construisais de tes mains et en Europe, non. En fait, finalement, non.
Voilà, alors pas directement de mes mains, mais on avait des sociétés qui le
faisaient. L'image.
Voilà. Voilà, ici, je vais orienter, je vais aider mes équipes à monter des projets pour lesquels il y aurait de l'intérêt, du besoin, que ce soit au Portugal, au Royaume-Uni, en Italie, en Slovénie, à Chypre. Et puis aussi, je vais aller citer les pays européens, les capitales, à financer l'OIM pour appuyer des États comme le Niger, le Bangladesh, l'Argentine, les îles Marshall, le Bhoutan, à pouvoir en fait renforcer leurs capacités en matière de gestion de l'immigration et des frontières.
Et tu as déjà envisagé de faire une pause dans ta carrière, de dire tiens allez vas-y, je me prends 6 mois, je mets tout en perspective et après je reviendrai, je serai plus perspicace, ou alors au contraire je changerai de voie, je ferai autre chose.
Faire une pause, oui, ça serait pas mal. Après, souvent la pause... Moi, j'aimerais bien prendre une pause à un moment donné, voilà, faire un grand voyage, profiter un peu plus des régions dans lesquelles je peux être pour voyager et découvrir, puisqu'au final, il y a beaucoup de régions dans lesquelles j'ai pu vivre que je connais assez mal d'un point de vue touristique. Et quand on me demande des conseils, je suis pas forcément capable d'en donner. Après, j'ai toujours tendance aussi à penser que tant que le métier nous plaît et qu'on a vraiment cet amour de son métier, il vaut mieux battre le fer tant qu'il est chaud. Et j'ai envie plutôt peut-être de profiter encore de vivre cette carrière professionnelle trépidante et d'enchaîner pour prendre une pause quand j'en aurais peut-être plus besoin. Mais encore une fois, je m'interdis pas du tout de prendre une pause à un moment donné, ça c'est clair et net. Mais c'est pas quelque chose que je pense faire dans les 2-3 prochaines années.
Est-ce que tu as déjà une idée de la prochaine étape dans ton parcours professionnel? Ou alors tu ne sais pas et tu te dis, bon, le vent me portera, on verra bien ce qui se passe?
Alors, le vent me portera certainement. J'ai des envies, bien sûr. Après, comme je disais, moi je bouge à deux et du coup il faut aussi adapter les carrières de l'un et de l'autre. Donc normalement, la prochaine fois, je suivrai ma compagne, donc je devrais faire aussi des choix en fonction de ça. J'ai bien sûr des envies et des rêves de gosse, comme aller vivre en Argentine, que j'espère voilà pouvoir le faire un jour. Il y a des pays en Afrique de l'Est, dans le sud de l'Afrique qui m'intéresseraient, sûrement retourner un jour en Afrique de l'Ouest, retourner au Laos, aller au Cambodge, voilà, il y a plein de pays qui m'intéressent, mais j'adorerais faire une expérience dans les îles du Pacifique, voilà. Donc il y a plein d'opportunités.
Faire un peu de surf à Tahiti, par exemple.
Faire un peu de surf à Tahiti, malheureusement, on n'a pas de bureau à Tahiti, comme c'est un territoire français, mais on a des bureaux en Micronésie, aux îles Marshall, au Vanuatu, aux îles Salomon, voilà, donc ça me plairait bien un jour de faire ça.
Sympathique. Et j'ai vu aussi, bon, je me suis un peu rencardé, bien évidemment, tu as aussi la fibre enseignante, puisque depuis cette année, tu es intervenant à l'Université catholique de Lille, et notamment dans le master du coup de RI que tu as fait à la FLSH. Tu peux nous en parler un peu de cette fibre enseignante? Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, tiens, j'ai envie de transmettre des choses à des étudiants, à de jeunes esprits, pour pourquoi pas les aider dans leur cursus?
Bon, alors déjà, initialement, moi, j'aime beaucoup partager ce que je fais, déjà pour démystifier un petit peu certains clichés des Nations Unies et de comment on y rentre et de l'aspect élitiste. Alors, en effet,
c'est quoi ces clichés d'ailleurs?
Ces clichés, c'est voilà, il faut sortir d'une très grande école pour rentrer aux Nations Unies. Donc, si on vient pas de Sciences Po Paris, et je n'ai rien contre Sciences Po Paris, mais si on ne vient pas contre Sciences Po Paris, on ne rentre pas aux Nations Unies. Ce genre de choses qui est complètement faux. On a pu réussir à faire rentrer pas mal de gens de la FLSH. Aux Nations Unies sur les dernières années, et ça montre que voilà, il vaut mieux, on recherche plutôt des caractères affirmés, des gens polyglottes, etc., plutôt que des gens qui ont juste un très beau diplôme. Et puis voilà, aussi le fait que les gens pensent qu'on est toujours en costume cravate derrière un ordinateur toute la journée, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, il y a plein de. J'ai commencé à faire des interventions une fois par an ou tous les deux ans à l'université, comme ça, quand je passais dans le coin. Ça m'avait bien plu. Après, je suis pas enseignant et c'est un vrai métier. Et je respecte vraiment les enseignants et ils ont tous les.
Ouais, quand tu es intervenant, quand tu transmets du savoir.
Voilà, voilà. Donc je vais pas faire des cours magistraux sur l'histoire des Nations Unies. Enfin, j'essaie de le faire un tout petit peu, mais je préfère et je pense que là où la valeur ajoutée de l'intervention que je fais, donc 16 heures sur un semestre, c'est vraiment l'aspect partagé avec eux, bah, déjà mon expérience, mais aussi inviter des gens de mon réseau. À partager aussi leur expérience sur d'autres institutions. Donc cette année, on a eu la Banque mondiale, on a eu le Comité international de la Croix-Rouge, on a eu IRC, donc l'International Rescue Committee, qui est une grosse ONG américaine. J'en oublie, mais voilà, on a pu avoir des professionnels. On a eu le ministère des Affaires étrangères français. Et donc, c'est un peu donner plusieurs expériences, expliquer aussi comment fonctionnent les Nations Unies, comment fonctionnent les organisations et institutions du développement et de l'humanitaire. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc j'avais envie de partager ça, de rendre aussi à la faculté ce qu'elle a pu me donner. Donc voilà, c'était avec ça s'est fait assez naturellement et je suis content de pouvoir le refaire l'année prochaine et voilà.
Et finalement l'année prochaine, tu pourras aussi dire aux futurs étudiants du master de RI pour rentrer à l'ONU, oubliez que vous avez aucune chance et foncez sur un malentendu qui peut marcher quoi.
C'est exactement ça. Je trouve que c'est une réplique. D'un film magnifique, mais qui s'applique totalement aux Nations Unies. Il faut vraiment tenter. On a des profils qui viennent de partout, avec des backgrounds extrêmement différents. On a des juristes, on a des biologistes, on a des gens qui ont fait des facultés d'histoire, des facultés de psychologie. Vraiment, on a de tout. Donc il faut vraiment pas avoir peur, il faut pas se sous-estimer et on apprend beaucoup en étant aussi à l'intérieur. Un peu ce que je tire aux étudiants. Ouais.
Et le conseil, toi, est-ce que si tu avais un conseil à donner à des étudiants qui soient dans n'importe quelle filière, qui soient encore lycéens en train d'attendre les résultats de Parcoursup ou alors en train de passer, je sais pas, une fac de médecine où ils sont en gestion ou alors en théologie ou en droit ou en lettres et sciences humaines, c'est quoi le conseil que tu donnerais à des étudiants pour qu'ils vivent au mieux leurs années universitaires et qu'ils réussissent au mieux leurs études?
Alors, je trouve que déjà, il ne faut pas se mettre une pression démesurée sur ce qui les attend après. Que non seulement il y a le temps pendant les études de s'orienter, et puis il y a le temps même après de se réorienter. Et je pense qu'il y a encore, notamment en Europe et en France, une peur de la réorientation ou une vision assez péjorative de la réorientation. Mais je dirais voilà qu'il faut prendre les choses étape par étape. Il faut bien sûr, je trouve. Faire un maximum de stages parce que c'est vraiment les stages qui donnent vraiment cet aperçu du métier et c'est ce qui permet en fait d'avoir un premier contact avec un métier, et c'est celui qui va permettre de dire bah oui, c'est un métier qui me plaît, j'ai envie de faire ça, ou pas du tout. Et donc voilà, c'est un peu le conseil que je peux donner, voilà, se renseigner sur les métiers, mais encore plus aller discuter avec des professionnels et faire des stages pour justement aller, on va dire, tâter le terrain. Mais en tout cas, pour que les années étudiantes se passent bien, c'est faire les études surtout qui les intéressent, et pas faire des études dans le but d'avoir une carrière dans un certain domaine.
Eh ben, j'espère que ces conseils porteront leurs fruits, en tout cas pour ceux qui vont nous écouter. Voilà, spécialiste pour les questions migratoires, chevalier de l'ordre du mérite du Niger, permis du Niger également, Bob le bricoleur ou encore le costume cravate, c'est Baptiste. Voilà, Baptiste Amieux, qui est avec nous pour ce sixième épisode. En tout cas, moi j'ai passé un très très bon moment, et j'espère que toi aussi.
Bah, merci beaucoup Louis, et puis au plaisir de rencontrer les étudiants sur le campus, je l'espère en personne à partir de la rentrée prochaine.
Altitude est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode et un nouvel invité. Merci pour vos écoutes et vos retours, j'en suis tout simplement ravi. Ça me permet de m'améliorer et d'évoluer avec et pour vous dans ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager un maximum autour de vous ou à me laisser un message sur Apple Podcasts. Altitude est un podcast réalisé grâce à l'Université catholique de Lille. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous !